Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Tout d'abord, les grands titres de ce mardi 17 décembre. En Australie, le gouvernement et l'opposition se disputent sur les prévisions révisées du budget fédéral. La canicule augmente le danger de feu de brousse dans tout le pays. En France, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, démissionne. En Australie, le trésorier fédéral Josh Frydenberg a réduit les prévisions de l'excédent budgétaire de 7,1 milliards de dollars à 5 milliards de dollars après un réexamen des finances du budget, la Mid-Year Economic and Fiscal Outlook. Le gouvernement a également révélé que les prévisions de croissance des salaires ont diminué et que la dégradation est due à l'affaiblissement de l'économie mondiale. Selon Josh Frydenberg, l'économie australienne continue de croître et les perspectives de l'année prochaine semblent bonnes.
Growth is being driven by a number of factors including public final demand, household consumption, exports and business investment. Public final demand, which covers consumption and investment, including the NDIS and transport infrastructure spending, is forecast to grow 4.75% this year, which is up from budget, and mining investment is forecast to grow for the first time in 7 years.
Le porte-parole de l'opposition fédérale, Jim Chalmers, critique le gouvernement pour avoir échoué à son propre test pour redresser l'économie.
Families and workers and pensioners of Australia didn't ask for weaker growth, higher unemployment, weaker wages, but that's what Morrison and Frydenberg have put in the stocking for Australians. Everything has been downgraded in this MIFO, but especially the government's economic credibility.
L'alerte rouge à cause de la canicule en vigueur en Australie du Sud pour les sans-abri et les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. À Adélaïde, on s'attend à des températures de 40 degrés ou plus pendant les 4 jours qui viennent. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, 118 feux de brousse brûlent dans l'État et quelques feux échappent à tout contrôle. Hier, quelques 20 maisons ont été détruites au nord-ouest de Sydney, à Mount Wilson et à Bilpin lors d'une opération de backburning. Rob Rogers est le commissaire adjoint du Rural Fire Service en Nouvelle-Galles du Sud. On l'écoute.
Nothing's working out for crews, and unfortunately, in these drought conditions, that's the reality. Whatever we try, doesn't seem to be working, and we just got to try and protect as many properties as we can.
Et dans le Queensland, deux communautés au sud de Bundaberg, dans le nord de l'État, sont menacées par un feu de brousse ce mardi. En Western Australia, un feu hors de contrôle avait brûlé pendant 6 jours, menaçant des maisons à Woodbridge, Sea Trees et Breakwater Estates. 13 000 hectares sont partis en fumée. Une alliance de groupes médicaux appelle le premier ministre Scott Morrison et la chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, à prendre des mesures concernant les niveaux élevés de pollution de l'air causés par la fumée des feux de brousse, décrivant la situation comme une urgence de santé publique. L'Alliance pour le climat et la santé appelle également à une stratégie nationale sur le climat, la santé et le bien-être afin de garantir une approche coordonnée pour lutter contre les effets du changement climatique sur la santé. Dr. Kate Charlesworth a déclaré que, comme les médecins ont parlé de l'amiante et du tabac, il y a la responsabilité de dénoncer les effets négatifs du changement climatique sur la santé.
Doctors are increasingly seeing climate-related health impacts on our patients and on our communities, including bushfires, bushfire smoke, drought and heat waves. And so just as we spoke up on asbestos and on tobacco, so we have a responsibility to speak up on climate change. It would be irresponsible of me as a doctor not to talk about the key underlying contributing cause to these horrific conditions, and that is climate change.
Une coalition d'anciens chefs des pompiers déclare qu'ils sont prêts à prendre les choses en main si le gouvernement fédéral n'agit pas pour résoudre la crise des feux de brousse en Australie et son lien avec le changement climatique. Un groupe de 29 anciens patrons des services d'urgence ont décidé de tenir leur propre sommet national fixé en mars prochain pour combler ce qu'ils appellent le vide de leadership laissé par le gouvernement fédéral. L'ancien chef des services d'urgence du Victoria, Craig Lapsley, affirme que les Australiens ont besoin d'un leadership solide sur la question.
It's climate. It's the way in which the climate's impacting on our environment. And we've got an increasing population, so we've got more people in the community that then interface with the bush. And we're seeing that these climate events are heat-driven. So we've got impacts of heat fatigue, and then we've got, obviously, if we've got bushfires, then we've got impacts of smoke across communities. So it is a community issue, and we just need solid, good leadership that's evidence-based to have the discussion and move this forward.
La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a déclaré que les enquêtes officielles sur l'éruption de White Island de la semaine dernière pourraient prendre jusqu'à un an. Le nombre officiel de morts s'élève à 16 personnes et deux autres personnes dont les corps seraient dans les eaux de l'île sont toujours officiellement portées disparues. Une enquête de santé et de sécurité sur les dommages et les pertes de vie causées par l'éruption a été ouverte par WorkSafe de Nouvelle-Zélande. On écoute la première ministre néo-zélandaise.
The coronial processes are also likely to continue for some time. As a cabinet, we know that it's possible there will be broader issues that won't be covered by these inquiries. Therefore, I have asked for advice from officials to look into whether there are any gaps that need to be addressed that fall outside of a potential coronial inquiry and the WorkSafe investigation.
Il y a eu de plus en plus de critiques selon lesquelles les gens étaient autorisés sur l'île, étant donné les risques d'un volcan actif. Les sanctions pour d'éventuelles accusations sont plafonnées à 2,9 millions de dollars et jusqu'à 5 ans de prison. En France, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, a démissionné suite à la publication des informations de conflit d'intérêts, c'est-à-dire ayant cumulé avec sa fonction de haut-commissaire aux retraites des mandats dont certains étaient rémunérés. Explication de Anthony Latier pour Radio France Internationale.
Jean-Paul Delevoye avait initialement déclaré 3 mandats, mais sous le coup des révélations de la presse, il a dû corriger le tir et il a ajouté 10 nouveaux mandats dans sa nouvelle déclaration publiée vendredi dernier. L'une de ses fonctions, bénévole, était liée au monde de l'assurance. Elle nourrissait les accusations de conflit d'intérêts. Mais le principal problème concerne un autre mandat, celui de président d'honneur d'un groupe de réflexion, un mandat rémunéré, celui-ci qu'il a continué à occuper tout en étant ministre. C'est interdit par la Constitution. Jean-Paul Delevoye plaide la bonne foi, parle d'une erreur, mais comme le glisse une députée de la majorité, quand on viole la Constitution, on ne reste pas au gouvernement. Celui qui était à la manœuvre depuis plus de 2 ans sur la réforme des retraites s'en va donc pour ne pas fragiliser cette réforme, dit-il. Sa démission tombe au plus mal pour le gouvernement, mais pour beaucoup au sein de l'exécutif, sa situation était devenue intenable. Il devient le 12e ministre à démissionner depuis l'élection du président Emmanuel Macron.
Et tout à l'heure, après le journal des Sport, on reviendra sur l'actualité en France avec Émile Matasso et Christophe Mallet. Aux États-Unis, la Chambre des représentants doit voter la mise en accusation de Donald Trump. Si le président est inculpé pour abus de pouvoir, les démocrates espèrent ainsi pouvoir auditionner d'autres témoins. Explication de Anne Corpé pour RFI.
Ne pas entendre ces témoins, c'est dissimuler les faits. Si on ne les entend pas, les Américains pourront se demander ce que le président veut cacher, a déclaré Chuck Schumer. Dans une lettre adressée au Sénat, le chef de la minorité démocrate demande notamment à entendre Mick Mulvaney, le directeur de cabinet de Donald Trump, et John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale. Ces deux proches du président n'ont pas pu être entendus à la Chambre. Donald Trump leur a interdit de se présenter devant les élus. Il y a peu de chances que les démocrates obtiennent satisfaction et puissent les convoquer au Sénat. La résolution fixant les règles du procès doit être adoptée à la majorité simple. Elle est détenue par les Républicains et Mitch McConnell, le puissant chef de la majorité, a déjà déclaré qu'il souhaitait un procès rapide, calqué sur les requêtes des avocats de la Maison-Blanche. Il a précisé ne pas être sûr de convoquer des témoins. Le procès du président doit commencer en janvier au Sénat si la Chambre vote l'acte d'accusation. Ce sera la troisième fois dans l'histoire des États-Unis qu'une telle procédure aura lieu.
La colère en Inde contre la loi sur la citoyenneté qui facilite la naturalisation d'étrangers sauf les musulmans. La loi donne la citoyenneté aux non-musulmans qui sont entrés illégalement en Inde pour fuir la persécution religieuse dans plusieurs autres pays voisins. Le gouvernement indien affirme que la nouvelle loi fera de l'Inde un refuge sûr pour les minorités religieuses de pays comme le Pakistan, l'Afghanistan et le Bangladesh. Reportage Sébastien Farcy. Merci pour RFI.
Des centaines d'étudiants et de musulmans du quartier envahissent la rue devant l'université Jamia au sud de New Delhi, pacifiques mais révoltés. Ce gouvernement ne considère pas que les musulmans peuvent avoir les mêmes droits que les autres, dit Shada, un étudiant. Il est donc en train de détruire notre constitution. La veille, plusieurs bus ont été incendiés en marge de la manifestation à quelques kilomètres de là. La police a accusé les étudiants qui nient toute implication, vidéo à l'appui. J'ai des preuves, dit un étudiant. Regardez cette vidéo. À l'intérieur de ce bus, c'est un policier. C'est un policier de Delhi qui arrose le bus et le brûle.
Delhi police.
L'homme qui jette un liquide dans le bus sur la vidéo doit avoir une quarantaine d'années. Il est bien rasé et habillé comme un fonctionnaire. Il ne porte pas d'uniforme et le bus, lui, est entouré par des policiers. Impossible de vérifier l'authenticité de cette vidéo, mais pour les manifestants, cela prouve que la police de Delhi, contrôlée par le gouvernement fédéral, a ainsi voulu discréditer ce mouvement. Et cela lui aurait donné une raison d'entrer violemment dans la faculté où deux jeunes ont été blessés par balles. Ce lundi, beaucoup d'autres universités indiennes ont commencé à protester contre cette loi sur la citoyenneté. De Calcutta à Bombay en passant par Madras, la révolte contre le gouvernement est à présent devenue nationale.
Hommage maintenant à l'actrice iconique de la nouvelle vague, Anna Karina, qui s'est éteinte à 79 ans samedi dernier des suites d'un cancer. Son portrait avec Elisabeth Le Quéré pour RFI.
Une frange brune, de grands yeux gris-bleus, une pointe d'accent danois. Avec Anna Karina, c'est une figure emblématique de la nouvelle vague qui disparaît. C'est en 1959 que la jeune mannequin rencontre Jean-Luc Godard. Avec lui, elle va tourner plusieurs films et des chefs-d'œuvre. Le petit soldat, Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part, Alphaville. Et puis en 65, Pierrot le fou, elle forme un couple de cinéma très glamour avec Jean-Paul Belmondo. Un film culte, mais qui est aussi le chant du cygne pour le couple Karina Godard, séparé depuis quelques mois. En 66, Karina tourne La religieuse de Jacques Rivette. Son premier grand rôle au cinéma, hors Godard, est peut-être le dernier. Après ce coup d'éclat, sa carrière au cinéma sera discrète. Elle enchaîne les apparitions dans des films mineurs, fait ses débuts dans la réalisation, se tourne vers la chanson et enregistre plusieurs albums au début des années 2000. Au cinéma, elle tourne encore, mais ce sont moins des rôles véritables que des apparitions très référencées où elle joue son propre rôle. Preuve que cette image de muse de la nouvelle vague a été autant sa gloire que son tombeau.
Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, oh mon amour.
Et on passe à la météo. Les prévisions de la météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 32 degrés, Adélaïde 40, Melbourne 30, Hobart 24, Canberra 34, Sydney 26, Brisbane 30, Cairns 33, Darwin 36 et à Alice Springs 43 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 17 décembre. En Australie, le gouvernement et l'opposition se disputent sur les prévisions révisées du budget fédéral. La canicule augmente le danger de feux de brousse dans tout le pays. En France, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, a démissionné.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.